Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, en prêtant serment à la reine en 2018, Sol Zanetti, alors nouveau député de Québec solidaire, avait fait sourciller bien du monde puisqu'il avait dit s'être senti souillé à jamais. Cohérent, mardi, M. Zanetti a proposé en commission d'en finir avec ce serment dans un débat autour du projet de loi visant à limiter les conséquences sur notre régime politique du décès à venir d'Élisabeth II. Avec le député, on discute aussi des difficultés d'être nationaliste à Québec solidaire et on aborde la question du tunnel Québec-Lévis qui aboutirait dans son comté. Mais d'abord, l'an prochain, une nouvelle statue sera installée derrière le Parlement à Québec.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
Il y a 6 ans, Jacques Parizeau nous quittait. L'an prochain, une statue de l'ancien premier ministre sera installée au bout de la rue qui porte son nom, derrière l'Assemblée nationale. Et pour en parler, ben, qui d'autre que Lisette Lapointe, qui est au bout du fil. Bonjour.
Bonjour, M. Robitaille.
Alors, Mme Lapointe, vous êtes la deuxième épouse de Jacques Parizeau, première dame aussi, dans le temps, et ancienne députée de Crémazie aussi, de 2007 à 2012. Vous avez fait de la politique, vous aussi. Donc, Mme Lapointe, comment est venue l'idée de ce fonds Jacques Parizeau? Parce qu'on parle de ça, là, avec le monument, il y a la création du fonds Jacques Parizeau.
Oui, le fonds a été créé de façon à pouvoir financer des initiatives dans des domaines qui lui étaient chers, mm-hmm. le développement social, la culture, l'enseignement, l'économie. Mais dans un premier temps, le fonds va servir à amasser des fonds pour, en fin de compte, pour créer un monument
mm-hmm.
qui sera installé, comme vous le dites, là, dans les jardins de l'Assemblée nationale.
Oui, on est déjà en train de préparer les aménagements. Moi, je le vois, c'est vraiment à côté de la fenêtre de mon bureau.
Ah bon?
Oui.
Vous avez de la chance.
J'ai une vue imprenable sur le futur emplacement.
D'ailleurs, ce sont les étudiants de l'Université Laval, en collaboration avec les architectes de la Commission de la capitale nationale,
oui.
qui ont conçu là, ces aménagements. Ça va vraiment être magnifique.
Mm-hmm.
Et je suis très, 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 très fière du monument. Ça va être un très beau monument.
Dites-moi, quelle pose va prendre Jacques Parizeau sur ce monument? Est-ce que ce sera le Jacques Parizeau ministre des Finances, premier ministre? Ce sera le Jacques Parizeau de quelle époque?
C'est un peu toutes les époques, mais en fait, c'est un monument hommage au premier ministre Jacques Parizeau. Alors, c'est surtout là, disons, on le personnifie
oui.
à l'âge qu'il avait au moment où il était premier ministre.
OK.
Et une position debout. Mais je pense que les artistes veulent être capable d'exprimer la vision qu'il avait, la force qu'il avait aussi,
oui.
le rêve qu'il avait. Alors, je ne sais pas comment tout ça va se concrétiser, mais j'ai beaucoup confiance. On a sélectionné, c'était un concours sur invitation
oui.
qui a été piloté par John Porter, qui est muséologue que tout le monde connaît, à Québec, mm-hmm. bien sûr, parce qu'il était au Musée national. Alors, c'est M. Jules Lassalle et Mme Annick Bourgeot qui ont déjà réalisé de très belles œuvres, dont le Monument des femmes devant l'Assemblée nationale.
Ça, c'est Jules Lassalle, oui.
Oui, qui est vraiment magnifique.
Et alors, Jules Lassalle a fait le Bourassa aussi, qui est devant,
oui,
devant l'Assemblée.
Oui, tout à fait.
Alors qu'Annick Bourgeot a fait le Sage, qui est près de la bibliothèque.
Oui. Ouais. Et là, ils le font ensemble. C'est vraiment le tandem,
mm-hmm.
Lassalle-Bourgeot, qui fait le monument.
Et l'emplacement, ça a été compliqué, d'après ce que j'ai compris, de choisir. parce qu'il y a eu 7 endroits possibles.
Ben, c'est-à-dire que ça, c'était au tout début. On s'était adressé à la commission en 2015, la commission de la capitale. Là, c'était Mme Mercure qui était là. Elle était très enthousiaste et nous disait que on pouvait espérer que ce soit réalité au moment du 5e anniversaire de son décès. Mais par la suite, disons que il semblait y avoir un projet entre la commission et l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une façon d'honorer tous les anciens premiers ministres. Alors, on nous avait demandé d'attendre une année et de revenir ensuite. Alors, c'est ce que nous avons fait. Et là, il y avait une nouvelle direction qui était Mme Marie-Claire Ouellette. Alors, on a un peu tout recommencé. Et je vous dirais là que si on n'avait pas eu Michel Bonsaint et les deux derniers présidents de l'Assemblée nationale, ça aurait été beaucoup plus long. Ce qui a fait tout débloquer, c'est que Monsieur Paradis a consulté tous les partis présents à l'Assemblée nationale pour leur demander si le site choisi, là, au bout de la rue Jacques-Parizeau, et que le délai, donc le monument sera inauguré vraisemblablement 7 ans après son décès, si ça convenait à tout le monde, et tous les partis se sont dit d'accord. Alors, c'est comme ça que je vous dirais aussi, grâce à la directrice de cabinet du président, là, les choses se sont mises en place parce que c'est très compliqué. Il y a le ministère de la Culture, il y a l'Assemblée nationale et il y a la commission de la capitale nationale. Okay. Ensuite, il y a le fonds et ensuite, il y a la famille. Alors, c'est ça.
Mais là, tout le monde s'entend pour une campagne de sociofinancement. Combien vous voulez ramasser?
L'objectif est 200 000 $. On a déjà des fonds qui ont été amassés. Bien entendu, la famille, les proches ont contribué et contribuent. Vont continuer à contribuer. Mais je suis sûre que mon mari aurait souhaité que ce soit un projet qui touche le plus grand nombre de personnes possible, comme ça a toujours été un peu sa vision du financement, un financement populaire. Alors, puis je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui lui vouent une affection, une grande admiration et qui seront heureux, je pense, d'ajouter leur petite pierre là à ce beau projet. Alors, c'est de cette façon-là que on souhaite amasser le montant nécessaire à la réalisation du monument. Et les gens peuvent consulter le site web qui a été lancé hier, qui s'appelle www.fondsjacquesparizeau.québec.
Et je lis que une des façons de financer cette opération va être de vendre des médailles souvenirs qui arborent une devise célèbre de Jacques Parizeau.
Bien oui, sa devise « N'ayez pas peur », qui est inscrite d'ailleurs sur sa pierre tombale. Bien, d'un côté de la médaille, il y aura une réplique du monument qui va être installé dans les jardins de l'Assemblée nationale. Et de l'autre côté, cette devise. Et c'est Charles-Olivier Roy qui nous a fait cette proposition. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire un don modeste, mais qui vont vouloir garder quelque chose en souvenir de ce monument, de cette opération pour réaliser ce monument. Voilà, c'est sûr aussi que par la Fondation du Grand Montréal là, qui héberge le fonds Jacques Parizeau, ben les gens auront droit à des reçus d'impôts parce que c'est un don là de cette façon-là. Alors, je suis vraiment très, très reconnaissante là, à toutes les personnes qui nous ont appuyés. Puis je vous dirais là, un merci spécial à Jean-Martin Hossan
Oui.
Se comporte comme un membre de la famille, hein, qui est avec mon beau-frère Robert Parizeau et moi, constituant du fonds, donc les gestionnaires du fonds, Jacques Parizeau, et qui est un peu le grand Manitou de tout ça, qui m'aide énormément. Et aussi, toutes les personnes qui ont accepté d'être membres du comité d'honneur, des gens qui viennent de tous les horizons, parce qu'on voulait absolument éviter que ce soit une opération partisane, parce que Jacques Parizeau a été un grand bâtisseur du Québec à partir de ses 30 ans, alors qu'il était avec le premier ministre Lesage, conseiller économique, et qu'il a réalisé, enfin, qu'il a lancé de grands projets. Alors,
Oui, notamment la Caisse de dépôt. Cette idée géniale, oui.
Régie des rentes et tellement d'autres outils là, de notre liberté, au fond, là, qu'on soit un peu responsable davantage de nous-mêmes. Alors,
très bien.
Les gens pourront voir le nom de ces personnes-là quand ils iront sur le site web et qu'ils souhaitent faire un don. Ils seront redirigés vers le fonds Jacques Parizeau et ils verront les noms de toutes ces personnes.
Bien, merci infiniment, Lisette Lapointe, de nous avoir parlé de ce beau projet.
Je vous souhaite une bonne continuation et merci.
C'est gentil. Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
Mon prochain invité dit avoir souffert pas mal en commission parlementaire hier, c'est Sol Zanetti de Québec solidaire. Vous avez souffert, Sol. Ben bonjour d'abord.
Bonjour.
Vous avez souffert parce que vous avez déposé plein d'amendements et rappelons que la loi qui était à l'étude, là, c'est le projet de loi 86, loi concernant la dévolution de la couronne. On sait votre rapport assez difficile avec la couronne. Quand vous avez prêté serment, vous aviez dit que vous aviez été souillé à jamais, c'est bien vos termes. Donc, vous avez souffert parce que vous vouliez que ça aille plus loin là, que simplement le projet de loi 86, dont vous pouvez nous rappeler le cœur.
Oui, bien, le cœur du projet de loi 86, c'est quand la souveraine, Élisabeth II, va abdiquer ou encore décéder, donc quand il va y avoir un passage de pouvoir, un passage, une dévolution de la couronne. Actuellement, dans l'état actuel de la Constitution, disons, du Québec, là, et de ces lois, ben ça pourrait entraîner une obligation de repartir en élection, une incapacité pour le lieutenant-gouverneur d'adopter les lois, puis une paralysie dans le système aussi judiciaire, disent certains constitutionnalistes. Il y a personne qui peut l'affirmer, mais ils disent il y a un risque, fait que prenons pas de risque, faisons un petit projet de loi à quatre articles dans lesquels on va régler ça, puis que ça va faire que quand il y aura abdication ou décès, rien va se passer, ça va être des choses vont continuer. La petite routine.
Et vous êtes
le projet de loi.
Vous êtes d'accord avec ça, là, évidemment.
Ben oui, oui. En même temps, ben moi je me suis abstenu, dans le sens que je peux pas être contre. T'sais, je peux pas vouloir que la dévolution de la reine ait un impact sur nos institutions. En même temps, voter pour, c'est un peu comme légitimer un peu cette affaire-là. Ça me crée un malaise aussi, fait qu'on s'est abstenu, dans le sens où bon. Alors on s'est abstenu, mais tu sais, on ne s'est pas opposé non plus.
Moi, je mais là, vous auriez voulu qu'on aille plus loin, qu'on abolisse, par exemple, le serment à la reine.
Exactement, parce que dans le projet de loi, il y a un article qui dit « À la dévolution de la couronne, les députés ne seront pas obligés de reprêter serment au nouveau souverain. » Là, ça va comme juste être un serment transférable, dans le fond. Puis s'ils se font réélire, ben, ils reprêteront serment à nouveau. Mais moi, je me suis dit « C'est une occasion d'insérer là quelque chose qui abolirait l'obligation de prêter serment à la reine en toutes circonstances et à jamais. Et je me suis inspiré du projet de loi que j'ai déposé en début de législature, par rapport auquel j'avais consulté des constitutionnalistes, un projet de loi que je l'ai conçu pour qu'il puisse être adopté par un gouvernement fédéraliste comme celui de la CAQ, c'est-à-dire que pas un projet de loi qui nécessite l'indépendance. C'est un projet de loi qui aurait pu juste là, faire cette petite avancée-là, puis ça a été refusé. Ce projet de loi, essentiellement, il modifie la Constitution interne du Québec en deux articles. Il modifie la loi 99 en précisant que c'est l'Assemblée nationale qui décide des modalités du serment, qu'elle prête, que les députés prêtent. Puis l'autre qui dit qu'il modifie la loi de l'Assemblée nationale en disant il y a juste un serment qui est obligatoire, c'est celui au peuple du Québec.
Bon.
Fait que, j'ai proposé d'amener ça dedans. Ça aurait été tout à fait possible. On aurait pu faire ça, ça aurait marché. Puis ils ont même pas voulu. J'étais vraiment déçu.
Vous aviez proposé 4 amendements. Ça tournait toujours autour du serment, hein, c'est ça?
Il y avait le serment. J'ai aussi proposé des choses. J'ai proposé qu'on ajoute un préambule. Un préambule à la loi disant. Au début, j'ai dit, compte tenu que les peuples du Québec reconnaissent pas ou désirent l'abolition de la monarchie, parce que sondage après sondage, on s'est confirmé qu'il était à 75, puis des fois plus de 80%. Puis compte tenu du fait que le Québec n'a jamais signé la Constitution de 1982, voici. Donc, moi, je veux un préambule. Donc, le préambule, on dit, ça change rien, là. C'est une déclaration de principe. Puis même juste ajouter le fait, étant donné qu'on n'a jamais signé la Constitution, la loi constitutionnelle 82, même ça, la ministre ne voulait pas l'ajouter. Puis je me disais, voyons, mais c'est incroyable. J'ai essayé de lui dire, donc, pourquoi vous ne voulez pas l'ajouter? C'est parce que vous voulez, ça fera un obstacle à signer la Constitution. Est-ce que vous voulez signer la Constitution? Puis là, elle ne voulait pas répondre. Fait que là, j'ai dit, donc, vous fermez pas la porte à signer la Constitution, les lois constitutionnelles 82. Puis là, elle a dit, je ne ferme pas la porte, je n'ouvre pas la porte, je ne me positionne pas par rapport à ça. Mais j'ai dit, ouais, mais vous avez juste à dire là, puis il n'y en a pas question pour la CAQ, puis vous fermez la porte, mais si vous ne le dites pas. Fait que bref, elle n'a pas fermé la porte, tu sais. Fait que j'ai dit, quel recul! Tu sais, on est devant un gouvernement, la ministre des Relations canadiennes est même pas capable d'affirmer qu'il n'est pas question de signer la loi constitutionnelle de 82 qui était imposée au Québec, personne n'a jamais voulu signer, à part peut-être Philippe Couillard qui y a pensé un petit peu puis qui s'est rendu compte que c'était une mauvaise
idée. Ah, mais même sous Couillard, est-ce qu'il n'y a pas eu des motions de l'Assemblée nationale pour justement réaffirmer la non-adhésion du Québec à cette constitution?
Ben, vous vous en souvenez plus que moi, là, vu que j'étais pas à l'Assemblée nationale, je t'avoue qu'on suit pas l'émotion si fort, là.
Mm-hmm.
Mais c'est ça. Donc, j'étais comme, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ce nationalisme d'apparat qui est même pas capable de dire ça? Je dis, quel recul! On n'est même pas capable de prendre le risque comme si c'était un risque de dire on signera jamais ça.
Mm-hmm. Cas, vous dites nationaliste d'apparat, c'est rare qu'on entend quelqu'un chez Québec solidaire se proclamer nationaliste. Ça semble être un mauvais mot même dans votre parti. Et je me souviens que vous avez célébré la mémoire d'un grand nationaliste, Jacques Parizeau, et qu'on vous l'a reproché au sein même de votre parti. Pardon?
Une personne, une militante de Québec solidaire sur les médias sociaux, et ça avait fait un article de Steve Fortin, mais c'est comme l'archétype d'une tempête dans un verre d'eau. Et j'avais aucune instance, aucun collègue, aucun employé du parti, aucune personne qui m'a reproché ça, là.
Mais quand même, on sait toute la querelle qu'il y a eu au sein de votre parti entre le collectif antiracisme et décolonisation, qui voit le nationalisme québécois d'un mauvais œil.
Ben, il y a beaucoup de monde. Tu sais, ça dépend c'est quoi le nationalisme. Tu sais, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par là. Si par nationalisme, tu sais, on pense à Donald Trump, c'est clair que moi, je suis très critique de ce nationalisme-là. Si le nationalisme, c'est...
Oui, mais Donald Trump est un Américain. Le Québec n'est pas une nation dominante, là.
Je sais, je comprends ça.
Mais pourquoi les membres de votre parti ne comprennent pas ça?
Ben, il y a des débats qui ont à voir sur la question du nationalisme. T'sais, le nationalisme, quand c'est un nationalisme d'émancipation, puis vous ne pouvez pas dire les membres de mon parti ne comprennent pas ça. Là. C'est vraiment, il n'y a jamais eu de décision d'instance par rapport à ça. On ne peut pas prendre en épingle des discussions de militants, puis après ça, dire ça représente l'opinion du parti. Là. Par contre, est-ce que dans la gauche, il y a des questions sur le nationalisme? Bien sûr. Puis c'est tout à fait justifié, dans le sens qu'il y a toutes sortes de nationalistes. Tu sais, il y a les nationalistes d'émancipation sud-américains dont, tu sais, par rapport à laquelle que la gauche trouve tout à fait légitime, par exemple. Mm-hmm. Puis il y a des nationalismes qui mènent à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, qui sont des nationalistes complètement absurdes, tu sais, où est-ce qu'on dresse les peuples les uns contre les autres, puis où ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, mais clairement, l'idée de dire il y a une solidarité du peuple québécois par rapport à lui-même, mais aussi des peuples du Québec, mm-hmm. dans le sens où on parle des Autochtones aussi, c'est un nationaliste d'émancipation, un nationaliste qui est de gauche, un nationaliste qui est juste universel et humain, puis c'est quelque chose qui, ce sentiment de collectivité-là, c'est essentiel pour faire des projets communs.
Oui, oui. Alors, ben oui. C'est un peu ça. Anna Arendt parlait de la nécessité d'un monde commun. Et c'est peut-être ça, le nationalisme, comment dire, convenable. Mais ouais, revenons
mais c'est
à...
Pas c'est, moi, pour moi, ces affaires-là, parce que souvent, dans le fond, les idées qui sont derrière, l'idée d'une solidarité, mm-hmm. Tu sais, le monde, d'habitude, sont d'accord avec ça. Mais bon, ça, c'est une de ces étiquettes. C'est correct, ça fait partie de la politique.
Oui, c'est ça. Mais vous me confirmez que c'est pas difficile... ou pas, vous me confirmez, mais vous affirmez que c'est pas difficile à Québec solidaire de se proclamer nationaliste.
Ben non, puis c'est sûr que ça va dépendre c'est quoi les... Mm-hmm. qu'est-ce que les gens mettent sous cette étiquette-là, puis là, il y a un débat. Fait que tu sais, il faut dire qu'est-ce qu'on entend par là, mais...
bon, mais le français est-il une langue coloniale, Sol Zanetti?
Ben, il l'a été dans plusieurs pays, il a été dans plusieurs contextes.
Et au Québec?
Maintenant, le français québécois...
Est-ce que c'est une langue colonisée ou une langue coloniale ici au Québec?
Je sais pas. Je sais pas. Mais tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas, tu sais, est-ce que la langue, c'est la langue qui colonise? Tu sais, c'est pas tant, tu sais, ce qui colonise, c'est les institutions, c'est le capital, c'est les inégalités. Puis je pense que quand on pense à la décolonisation au Québec, on doit évidemment, tu sais, faire une place beaucoup plus importante aux langues autochtones, une vraie place. Tu sais, on doit permettre que certains peuples la conservent, d'autres se la réapproprient, et que ça soit pas, qu'il y ait pas une compétition entre ces langues-là et le français. Ça, c'est mm-hmm. important. Puis on peut tout à fait protéger le français en faisant ça. Pour moi, il n'y a pas d'antagonisme là. Tu sais, mais j'ai lu un livre récemment vraiment intéressant pour comprendre. Je pense où le Québec se place dans le dilemme, est-on colonisé ou est-on colonisateur?
Ouais.
C'est un dilemme, c'est vraiment difficile. Mais le nouveau livre d'Alain Deneau,
oui.
Bande de colons,
oui.
Bon, ça a l'air d'une insulte, dit de même, mais c'est quand on lit le livre, on voit que non, ça n'a pas à être considéré comme une insulte. Ben, ça pense une nouvelle façon de régler en fait ce dilemme-là que je trouve vraiment intéressante. Je pense avoir de l'influence dans le mouvement si les gens le lisent. Là,
est-ce que ça culpabilise pas le nationalisme québécois?
Je pense que non.
Okay.
Mais tu sais, c'est parce que ça culpabilise pas la solidarité à l'intérieur des peuples. Et je pense que ça prône la solidarité aussi entre les peuples.
Mm-hmm.
Et je pense que c'est vraiment ça qui est important.
Revenons à Sonia Lebel, si vous me permettez.
Mm-hmm. Ouais, ouais.
Tout à l'heure, vous parliez de nationalisme d'apparat. On a fait un long détour, mais qui est intéressant. Sonia Lebel, mm-hmm. pourquoi elle résiste comme ça? Au geste, je dirais, nationaliste ou républicain comme celui que vous proposiez hier. Mmh. Et moi, j'ai mon hypothèse. Qui part de l'analyse d'Alexis de Tocqueville qui
ouais.
vient qui écrit sa démocratie en Amérique au début du 19e siècle, après un long séjour en Amérique, aux États-Unis. Puis il dit, ben, tout le monde est pour le changement dans un peuple qui est naturellement, où tout le monde est né égaux, contrairement au peuple où il y a des aristocraties, d'où lui il est issu. Et il dit, il y a seulement une classe de gens, c'est les légistes, qui résistent aux penchants révolutionnaire des peuples du Nouveau Monde. Hein? Il dit il est propre à neutraliser la classe des légistes et des juristes, neutraliser les vices inhérents au gouvernement populaire. Hein? Oui. Il dit donc, et on a l'impression qu'il y a quelque chose de conservateur, de statu quoiste chez Sonia Lebel. Est-ce que Mon hypothèse, est-ce que vous qu'est-ce que vous pensez de mon hypothèse?
Ah, c'est clair, là. Moi, ça fait 3 ans que je lui pose des questions en études de crédit comme ministre des Relations canadiennes. Je lui demande comment avancent les grands dossiers de la CAQ, là, les grandes promesses nationalistes qui avaient été faites. Puis c'est chaque fois, il n'y a rien qui avance. Là. T'sais, on parle de les transferts en santé. Bon, il est allé, notre premier ministre est allé quêter avec plus d'ardeur peut-être que d'autres. Puis il a obtenu quelque chose de temporaire parce qu'il y avait une pandémie puis qu'il s'est fait des alliés dans les autres provinces. Mm-hmm. On peut pas dire qu'on est allé vraiment rapatrier ces sommes-là, ces points d'impôt-là de façon durable pour le Québec. Pas de rapport d'impôt unique, pas d'abolition du poste de lieutenant-gouverneur. Donc, il y a vraiment, tu sais, je pense que les enjeux de la démocratie, de la légitimité du système politique dans lequel on est, c'est vraiment des sujets dont ils se balancent, tu sais. Mmh. Ils disent, ça n'a pas de traction électorale, fait que, tant pis.
OK.
Moi, c'est ça que je sens. Tu sais, c'est comme, ni pour ni contre. Elle dit souvent, tu sais, je partage probablement ce que tu dis. Tu sais, fait que là, elle laisse entendre que, est probablement pas une fan de la monarchie, mais en même temps, c'est pas une priorité, puis ça le sera vraisemblablement jamais.
Mais dans le projet de loi 96 sur la langue française, par contre, là, il y a quelque chose de hardi constitutionnellement. On va reconnaître la nation québécoise, sa langue officielle aussi. On va jusqu'à transformer le texte de 1867. Donc, peut-être qu'elle a dû l'approuver au Conseil des ministres. Comme juriste, elle a dû l'accepter. Donc, est-ce que ça, c'est pas un contre-exemple?
Ben, non. C'est-à-dire que, pour moi, cette démarche-là, c'est défoncer des portes ouvertes. Quand tu fais une modification constitutionnelle de cet ordre-là, que Justin Trudeau et Stéphane Dion sont d'accord avec toi, puis ils voient pas de problème, c'est probablement parce que ça changera pas grand-chose. Évidemment que tu sais, il se passe tellement rien du point de vue au Québec, là, du point de vue constitutionnel depuis des décennies, que ça apparaît comme quelque chose d'extraordinairement brave, mais remis en perspective. Moi, je pense qu'il faut pas acclamer ça, puis il faut pas le célébrer comme de l'héroïsme, parce que ce serait mettre la barre trop bas. Tu sais, ce qui serait héroïque, ce qui serait audacieux, c'est pas d'aller modifier notre chapitre de la Constitution coloniale de 1867 conçue pour nous assimiler, mm-hmm, et nous faire disparaître et faire disparaître les Autochtones. Non, ce qui serait vraiment audacieux, ce serait de dire, cette affaire-là, c'est pas légitime, on va s'en construire une nous-mêmes, une constitution de façon démocratique, puis elle sera la nôtre, elle va être légitime, puis elle va déclarer l'indépendance du Québec. C'est, ça doit être ça qui doit être notre jalon de qu'est-ce qui est brave, puis c'est ça.
Si ça reste un horizon qui se déplace constamment... Et que, bon, les Québécois ont quand même refusé 2 fois dans des référendums d'aller dans ce sens-là, et que dans les sondages aussi, ça baisse. Est-ce qu'il est pas mieux au moins de faire débloquer les choses, de mettre un coin quand on veut fendre du bois, là, on met un coin. Est-ce que c'est pas ce type de geste-là dont il est question ici?
Regardez ce qui se passe. Depuis que la CAQ est au pouvoir, là, l'appui à l'indépendance a-t-il augmenté ou baissé? Il a baissé. C'est l'indépendance par le nationalisme, c'est une stratégie de repli qui n'a jamais fait avancer le mouvement indépendantiste. Et puis, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. C'est des paris de Stéphane Gobeil. C'est des paris de tous ces péquistes passés à la CAQ. Et c'est un pari de perdant. C'est un pari qui dit on a perdu. Fait que là, on va essayer de aménager la cage, puis voir si on peut pas tirer sur un brin là de qui dépasse pour essayer de détricoter la patente. Mais ça marche pas. Puis au pire, ce que ça fait, c'est que ça nourrit le sentiment qu'on n'a pas besoin de sortir de cette cage là parce que on est quand même capable de l'aménager. Puis on est quand même capable de se faire respecter à l'intérieur. Fait que pour moi, c'est vraiment contre-productif. Puis la voie vraiment pour dire on déclenche quelque chose de solide, on remonte l'appui à l'indépendance, mais ça passe aussi par une conscientisation du fait que on est dans un système qui est illégitime, puis ça passe par des gestes qui sont en rupture avec le cadre canadien, pas qu'ils vont quasiment y donner de la légitimité en allant écrire ajouter des phrases dedans.
En terminant, vous êtes député de Jean Lesage, l'arrivée du tunnel, l'entrée ou la sortie du tunnel serait probablement à Exposité, le fameux tunnel Québec-Lévis que le gouvernement de la CAQ veut construire. Est-ce que vous craignez que les gens de votre circonscription appuient? ce tunnel-là? Est-ce que, parce qu'on sait que là, c'est 60%, je pense, d'appui dans un sondage qui est paru ce matin. Et est-ce que vous craignez que pour votre siège?
Non. Je vous dirais que, quand on parle, le sondage que j'ai vu, d'abord, on n'a pas vu les détails. Mm-hmm. Et c'est vraiment les données qui ont été qui ont percé jusqu'ici. C'est vraiment elles sont savamment sélectionnées pour donner une certaine image. Mais tu sais, c'est parce qu'ils ont consulté la grande région de Québec, incluant Lévis et Bellechasse.
Okay.
Alors, ils n'ont pas consulté la ville de Québec uniquement sur la rive nord. Ils ont pas. Puis quand ils demandent aux gens de Bellechasse, c'est quoi leur appui au tramway? Ben, c'est sûr qu'eux autres, ils vont pas l'utiliser. Fait que c'est pas la même affaire, là.
Mm-hmm.
Donc, moi, j'ai hâte de voir des sondages qui sont plus honnêtes, qui citent davantage la question des gens de la Rive-Nord, parce qu'eux, dans le fond, ils sont en maudit, là, parce que ce qui va arriver, c'est que le tunnel va, selon les prédictions de la CAQ, amener 55 000 voitures dans leur circonscription, entre eux autres puis le centre-ville,
mm-hmm.
exactement sur eux autres. Et pour ceux qui sont, mettons, à Charlebourg, un peu plus au nord de ma circonscription, là, ben, ça va augmenter phénoménalement le temps que ça leur prend en voiture pour se rendre au centre-ville. Fait que les gens de la Rive-Nord...
Vous sentez de l'opposition? Vous sentez de l'opposition dans votre comté?
Ah oui. Mais surtout que les gens... Moi, il y avait du monde un peu à Beauport qui disait un troisième lien à l'est, ce serait vraiment bien. Mais là, le troisième lien, il est plus à l'est, premièrement. Et puis, les gens disaient, si ça coûte 4 milliards, tu sais, parce que Kerr, il disait ça dans le temps,
ouais.
Plus que 4 milliards, ce serait une catastrophe, ça aurait aucun bon, ça serait inadmissible. Mais ben là, il coûte 10 milliards. Fait qu'un troisième qui est pas à l'est, qui coûte 10 milliards, et qui t'amène vraiment loin, je suis pas sûr que ça va garder le même appui populaire, même à Beauport.
En chambre, vous avez dit gros tunnel, puis vous avez fait trois petits points. Et là, évidemment, on pensait à certaines rimes très connues.
Oui.
Vous aviez quoi à l'esprit après gros tunnel?
Petite vision.
Ah,
parce
okay.
que dans un tunnel, hein, c'est la vision en tunnel.
Cherchez une rime.
Regarde dans... Oui.
On connaît grosse corvette.
Oui, c'est ça. Ben, c'est effectivement. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment petite vision parce que quand on regarde dans un tunnel, là, on voit ça rétrécit énormément le champ de vision.
OK.
Et je trouve que la CAQ a exactement ce syndrome-là avec l'affaire du tunnel. Ils disent qu'ils voient dans l'avenir, mais dans la réalité, ils voient pas la question des changements climatiques. Ils voient pas, ils nient le phénomène d'étalement urbain que ça va créer, puis le fait que c'est une catastrophe environnementale, puis qu'il y a d'autres solutions pour la congestion interrégionale. Ça s'appelle le transport en commun.
Merci beaucoup, Sol Zanetti, pour cette conversation. Donc, député de Jean Lesage de Québec solidaire, au plaisir.
Merci, au revoir.
Salut. Et c'est tout pour La Haut sur la colline en ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.